Gloire à Dieu. Notre Dieu est fidèle en toutes circonstances de nos vies. Nous confions en lui parce qu'il est fidèle. Notre Dieu prend soin de nous, que nous nous en rendions compte ou pas. Lui demeure le même hier, aujourd'hui, si un demain, demain aussi. Donc nous allons tout simplement élever la voix pour le temps de la parole que nous allons prendre. Et je veux me garder un très très petit temps, mais un petit temps pour la prière à la fin de mon intervention. Donc on va incliner la tête. Seigneur, nous remettons ce temps que nous prenons à l'étude de ta parole entre tes mains, ô Dieu. Seigneur, que ce temps, Seigneur, puisse enrichir notre connaissance, mais aussi, Seigneur, notre expérience avec toi, à travers l'expérience de d'autres, nous pouvons apprendre. Donc, Seigneur, que ce temps puisse profiter à ton peuple et que ton peuple puisse recevoir ce soir et puisse sortir d'ici enrichi de ta connaissance, de ta présence, Seigneur, et enrichi, Seigneur, te connaissant de mieux en mieux. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, vous m'excuserez si je perds la voix quelquefois un peu. La journée a commencé tôt et elle est en train de se finir tard pour moi. On est toujours dans le livre de Jonas. Et à chaque intervention que je fais, quelquefois, le mois passé, j'en ai fait, je crois que j'en ai même pas fait une. Mais comme les études sont assez cloisonnées, je peux me permettre de vous amener le livre de Jonas dans une forme par laquelle vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris ou assisté aux autres cours. Ceci étant dit, je vous invite au chapitre 3 du livre de Jonas. C'est là où on est rendu et on va regarder certaines choses ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons regarder certains éléments. Donc, je vous fais une longue lecture pour débuter. Jonas, chapitre 3, verset 1. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait... Encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies, des actions de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et qu'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Pardonnez-moi. Dans le chapitre 3, les 10 versets, nous parle des réactions des Ninivites. Nous parle de réactions qui ont arrêté le courroux de Dieu, qui ont arrêté l'œuvre que Dieu allait mettre en position, une œuvre de justice en position pour eux. Dans cette petit espace-là qu'on a à la parole ce soir, je veux amener certaines choses de bien clair pour vous. Verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. On va commencer par regarder que notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Je vous ai dit lors de ma dernière intervention que le Seigneur manque pas d'hommes pour exécuter sa volonté. D'ailleurs, il n'a pas besoin de personne pour exécuter sa volonté. Soyons clairs. Et Jonas, malgré sa désobéissance, Dieu décide de travailler avec lui. Ne le laisse pas tomber. Est-ce que vous pensez que ça aurait été simple pour le Seigneur de dire, « Prophète rebelle, on passe à un autre appel. Bye-bye, Jonas. » Jonas englouti et digéré par le poisson. Soyons clairs. Dieu aurait tout loisé. Et je vais me rendre plus loin que ça. Dieu aurait eu tout à fait raison de le faire. Parole d'encouragement pour vous qui êtes ici ce soir et pour ceux qui m'écoutaient au loin. Notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance, voire de la troisième chance, de la quatrième chance. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on reste accroché à lui, il y a de l'espoir. On peut dire, phew! Il y a de l'espoir pour nous. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. C'est ce que la parole nous dit du Seigneur. Donc, le Seigneur réadresse la parole à Jonas après, et on ne reviendra pas du début de tout ce que je vous ai enseigné jusqu'à maintenant, et lui dit pour la seconde fois la même chose. Va à Nénive. Et Jonas va partir, va aller à Nénive. Il est remarquable qu'on va regarder qu'à travers l'histoire biblique, Jonas n'a pas été le seul à bénéficier des largesses de Dieu, des largesses du Seigneur. David en a bénéficié. Abraham en a bénéficié. L'apôtre Pierre en a bénéficié. Ne prendrais-je que l'exemple de l'apôtre Pierre qui renie son maître trois fois et que Jésus va le voir après la résurrection. Il va lui demander trois fois, « M'aimes-tu? » Autant de fois qu'il a été renié. « M'aimes-tu? » Est-ce que vous pensez que l'apôtre Pierre était digne de la grâce qui lui était faite? Tout à fait non. Nous non plus d'ailleurs. Renier le Seigneur, ce n'est pas nécessairement toujours avec des mots, bien-aimés. Nos actions peuvent renier ce qu'on est. Nos pensées peuvent le faire. Et les situations dans lesquelles nous sommes peuvent le faire. Est-ce que vous pensez que le Seigneur vous pardonne? La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est un Dieu de deuxième chance, est un Dieu de miséricorde, et Dieu ne manque pas l'occasion de pardonner. Chaque fois qu'un de ses fils, qu'une de ses filles va demander pardon, ne laissez pas le diable vous laisser douter de ce pardon. Souvent, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de bureaux. J'ai eu l'impression de passer à peu près toute ma journée à l'église. Mais les différentes personnes que je rencontre, avec lesquelles je fais de la relation d'aide ou de l'instruction, souvent, ils prennent Dieu à leur mesure à eux. À quelle mesure? Toi, tu as le pardon pour ton épouse. Tu as le pardon pour tes confrères de travail. Tu as le pardon pour ton père, ta mère. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est ni à ta mesure, ni à la mienne. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait tous perdus. Si vous n'êtes pas amen, dites « Ouch ». Sinon, ça ferait bien longtemps qu'on serait perdu. Donc, l'occasion de la seconde chance, On le trouve dans le verset 2 et 3. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva, « Allez à Ninive, selon la parole de l'Éternel. » Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Ninive était la capitale de l'Assyrie. Et là, je vais faire un peu de géographie rapidement avec vous. Qui était située sur la rive orientale du Tigre, pas de l'animal du Tigre, mais du fleuve. Elle était le symbole, en fait, de la force de l'Assyrie. Il y a beaucoup de commentateurs libéraux qui ont dit que cette ville-là avait probablement jamais existé, une assez grande ville, pour que ça prenne 3 jours à en faire le long en large. Et pourtant, on a découvert, parmi des fouilles archéologiques qui ont été, pour ceux qui suivent ça, par Henri Layard, on a exhumé une enceinte de plus de 100 km de périphérie. 3 jours, soyons clairs, qui concorde avec les 3 jours de marche. On estime qu'à l'époque, un marcheur pouvait parcourir environ maximum 30 km par jour. Cette ville-là qui a été exhumée, qui a été découverte, on en fait aujourd'hui un rapport direct à la grande ville de Ninive, qui était une forteresse. Pourquoi je vous donne un peu ces qualificatifs-là de la ville? Une raison claire. Ces gens-là ne se sentaient pas attaqués, n'étaient pas craintifs. Ces gens-là habitaient une forteresse. Et un homme rentre. Un homme à qui Dieu a parlé rentre et va faire écrouler, et là je vous image un peu la chose, va faire écrouler la forteresse. On nous dit qu'elle était entourée d'un mur de 30 mètres de hauteur et d'environ, je crois que ma note n'est pas bonne ici, mais assez large que sur le mur pouvaient se croiser deux chariots. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Pour vous montrer que ces gens-là se sentaient en sécurité, mais ne l'étaient pas du tout. Ces gens-là se sentaient en sécurité dans une ville fortifiée. Dieu fait rentrer son prophète qui va annoncer la destruction. Je ne sais pas comment est-ce que les gens à Montréal prendraient si un homme se promènerait dans la ville, pardonnez-moi, se promènerait dans la ville de Montréal, il dirait encore une semaine, je prends n'importe quel chiffre, une semaine, puis la ville de Montréal va être détruite. Peut-être que tu dirais, on a un bon service de police, on a un bon service de la ville de Montréal, on peut faire venir l'armée, si on est attaqué, on a notre voisin au sud avec qui on a une entente, et ainsi de suite. Qu'est-ce que les Ninivites auraient pu se dire? Pourquoi je veux vous amener là? Parce que Jonas, qui s'en va prêcher là, savait que 60 ans auparavant, en 722, les troupes assyriennes avaient envahi Israël, avaient amené une partie du peuple captif, les avaient soumis à un tribut. Et ce qu'il ignorait, Jonas, c'est que environ 70 ans après son passage à lui, le reste du peuple sera amené en captivité et que une bonne partie de la Judée sera rasée par l'armée assyrienne. Il ignorait ce qui était à venir, bien que Dieu, lui, n'ignore rien, mais il n'ignorait pas ce qui s'était passé. Donc, je vous mets dans la tête du prophète pour l'instant. Dans la tête du prophète, on l'envoie à une place où il ne veut pas aller. D'ailleurs, je crois qu'il l'a bien prouvé, Dieu l'envoyant à l'ouest et se sauvant à l'est. Il a bien prouvé qu'il ne voulait pas y aller. Dieu le reprend, Dieu l'amène à un acte de contrition, je vais dire ça de cette façon-là, et notre homme part. Imaginez-vous dans quel esprit cet homme-là arrive là. Vous savez, des fois, on a un bon prédicateur, là. Le gars, il essaie de convaincre, il prêche aux gens, il donne des exemples bibliques. Les gens sont là, écoute. Ils sont pas convaincus. Mais lui, Jonas, voilà, mais il voulait convaincre personne. Je suis certain que Jonas avait pas de larmes en donnant son message, en disant « Repentez-vous parce que dans 40 jours, ça va aller mal à la chope. » Parce qu'on va voir dans la suite des textes quand on va le prendre. À l'inverse, Jonas veut. Ce que Jonas veut, c'est que Dieu les passe au feu, les Ninivites. Il veut que Ninive soit rayée de la map. Imaginez-vous sa prédication. Moi, j'essaie un peu là, de vous donner le contexte. Il y a des fois des gens disent, le pasteur André va donner, il gesticule beaucoup, va donner beaucoup d'exemples. Je suis certain que ce n'était pas le type de Jonas. Je suis certain que Jonas criait, comme la parole de Dieu nous dit, proclamait, mais ne le faisait pas avec conviction. Vous comprenez ce que je veux dire? Je rencontre des couples que j'enseigne. Et je dis souvent, ce qui manque le plus dans les couples, c'est la communication. La communication, et là, je ne vous donnerai pas un enseignement sur les couples, mais la communication se passe en trois phases. Moi, exemple, je peux dire, je prendrais ma sœur Nancy qui est ici, je peux lui dire la même chose, les mêmes mots, ou à peu près les mêmes mots, ou la même idée, mais je ne serais pas en train d'y transmettre le même message. Admettons que la sœur, elle n'était pas là, c'est un exemple que je donne. Admettons que la sœur aurait été en retard et que c'est elle, mettons, qui rouvrait par la prière. Je pourrais dire, Nancy, ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en retard. Ou je peux dire, Nancy, t'es en temps. J'ai dit toujours la même chose. Je peux dire, Nancy, t'es encore en temps, ma sœur. Trois façons de j'exprimer la même chose, mais je suis certain que ça n'aurait pas le même impact. À toi, Nancy. Je suis certain que ça n'aurait pas le même impact. Notre homme s'en va convaincre personne. C'est ce que je veux que vous reteniez. Notre homme s'en va convaincre personne. Il veut tous qu'il périsse. Imaginez-vous la prédication. La parole de Dieu nous dit ce qu'il a fait, nous dit ce qu'il a dit. Je vous l'ai dit tantôt, il s'est élevé, puis il a fait la publication. Il y a été, puis il l'a fait pendant trois jours, sans conviction. Et je vous le répète, sans conviction. Il l'a fait parce que Dieu l'envoyait. Est-ce que cela a empêché le Seigneur d'agir? Là, maintenant, je vais vous montrer un peu l'attitude des Ninivites. Je vous ai dit qui habitait une forteresse, je vous ai donné quelques dimensions. Ces gens-là ne se sentaient pas craintifs face à Jonas, pensaient pas que Jonas avait une armée qui l'accompagnait. Donc, ces gens-là, il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Vous savez, c'est l'exemple de l'Ancien Testament d'une conversion de masse. C'est l'exemple. Le seul exemple que vous trouvez dans l'Ancien Testament de ce type de conversion-là, mais sans le message du salut. Aujourd'hui, des gens viennent, je vous cite Jean 3,16, vous connaissez Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Est-ce que vous aimez mieux Jean 3,16 ou Jonas qui se promène dans la ville et qui dit encore 40 jours puis cette ville-là va être rasée. Dieu va la détruire. Vous pensez que c'est une forteresse, elle va être jetée par terre. Il n'y avait aucun message de compassion là-dedans. Vous comprenez? Zéro message de compassion. Et pourtant, ces gens-là ont réagi. Ça devrait nous parler un peu que nous, on ne convertit personne. On peut être un messager. C'est ainsi, le vendredi, j'étais avec les jeunes. Il y a un jeune qui était là vendredi, puis il m'a dit, ma mère, sa mère ou sa tante, je ne me souviens pas, elle a eu un songe, tu étais dans le songe. Tu parlais à sa famille, puis les gens se faisaient baptiser un après l'autre. Gloire à Dieu. Mais que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, on se comprend bien. Nous, on ne convertit personne. La parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, peu importe si on est de fin prédicateur, peu importe la connaissance qu'on peut avoir, nous ne convertissons personne. J'aimerais entendre un amen. On ne convertit personne. C'est l'Esprit de Dieu qui convertit. Et à preuve ici, Jonas va avec un message, non pas de grâce, de jugement imminent. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont évangélisés. C'est un peu si quelqu'un viendrait au Québec et dirait que Dieu va détruire la ville sans donner la voie de sortie. C'est exactement ce que notre homme a fait. Il ne parlait pas de repentance dans son message Jonas. Et pourtant, ces gens-là ont trouvé le chemin de la repentance. Notre Dieu veut agir avec miséricorde. Il y a un message qui s'est déjà fait, qui a été, si vous voulez, la bougie d'allumage d'un réveil qui s'est fait dans une ville. Et vous seriez surpris, l'évangéliste qui a été là, il a amené un message de condamnation. Oui, lui, il a donné la solution, mais le message était vraiment axé sur la condamnation, qui disait, ni plus ni moins, « Venez au Seigneur, vous êtes tenus par le Seigneur juste en haut de l'enfer, et vous balancez, puis Dieu est le péché, puis le Seigneur a en horreur votre condition. » Il ne s'agirait qu'il coupe votre souffle, qu'il vous lâche, et vous tomberiez directement dans cet enfer-là, et vous l'auriez mérité. C'était le message qu'il est en train de donner. Pas tellement gai comme message, soyons clairs. C'est pas « Venez donc à Jésus, Jésus vous aime, venez au Seigneur, le Seigneur va vous guérir de vos maladies, le Seigneur va vous sauver, vous allez avoir la vie éternelle. » C'est pas ce qu'il a prêché, là. Et ça a été l'amorce d'un réveil dans cette ville-là. Je vous passe les détails, parce que le temps file, je vous passe certains détails, mais cet homme-là donnait quoi comme message? Un peu le message que Jonas a donné. Je ne suis pas en train de vous dire d'annoncer l'Évangile de cette façon-là. Je suis en train de vous dire que le témoignage qu'on rend, il faut que ce soit un bon témoignage, mais le témoignage qu'on rend à monsieur et madame, compagnon de travail, peu importe, étudiant avec toi, c'est Christ qui va faire pénétrer cette parole-là dans la personne. On peut avoir une bonne connaissance. On peut avoir une bonne connaissance de certaines choses. D'ailleurs, je parlais avec le pasteur Florent, et on discutait l'autre semaine et je lui disais, ben, on était tous les deux d'accord que si j'enseigne ça, il faut que je possède ça, moi, comme matière. Il faut que je possède plus de matière. Le vendredi, et quand je donne des cours, sauf par le Zoom, mais généralement, il y a une période où les gens posent des questions. Vendredi dernier, les deux bien-aimés étaient là. Et je fais toujours une période de questions. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui ont peur des questions, qui se disent je peux me faire poser devant tout le monde une question piège. Et ça peut arriver. Hein, il y a une question qu'on m'a posée, puis j'ai dit est-ce qu'on est sur Zoom? On m'a dit on est sur Zoom. Est-ce qu'il y a des enfants de l'autre côté de l'écran? Je l'ignore. Donc, je ne suis pas à l'aise de répondre à cette question-là d'ordre personnel, pas de ma personne, mais d'ordre personnel à un certain niveau, sans savoir l'auditoire que j'ai devant moi. Et j'ai averti le frère Samy, je lui ai dit, je vais venir à un moment donné, puis ceux qui ne seront pas en présentiel ne recevront pas, parce que je ne voudrais pas que ça soit diffusé. Ou ce que je vais parler aux gens qui sont dans la salle. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait des questions non réponses. Parce qu'il y a des sujets qui peuvent être sujets à débat, voire à interprétation. J'ai rencontré dernièrement un homme qui n'a pas la même vision de l'Évangile que nous avons. Et je lui ai dit, je veux te rencontrer seul. Le but, c'est pas de laminer la personne. Le but, c'est de discuter avec elle. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur. Mais même si vous fautez, il y a une deuxième chance. Même si vous n'avez pas la connaissance de Dieu infuse et personne de nous l'a, ça n'empêchera pas Dieu de convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça n'empêche rien. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous dire « Tais-toi, tu ne connais pas assez ça, prie pour eux autres. » Non, non. Lève-toi, parle. Jonas ne voulait pas parler et Dieu l'a amené à parler. Et dans notre monde d'aujourd'hui, en 2022, si Jonas est envoyé au Québec, admettons, Jonas est envoyé dans la ville de Montréal. Puis ben là, c'est plus que 3 jours de marche. Là. Il ferait vélo peut-être. Et il commence à prêcher, pas le message de repentance, le message de condamnation. D'après vous, comment réagiraient les gens? On peut avoir notre pensée, mais la vérité, c'est que peut-être la réponse serait plus positive qu'on pense. Tournez dans Luc, chapitre 3, verset 3. La parole de Dieu nous dit à propos de Jean-Baptiste, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Matthieu 4, 17. Je vais prendre tout mon temps. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il y a quelque chose de connexe dans tout ce que je vous prendrai là. Acte 2, 38, « Repentez-vous. » Je vous en donne un autre. Acte 3, 19, « Repentez-vous. » Le message de la grâce amène l'auditeur, du moins tente d'amener l'auditeur à la repentance. Êtes-vous d'accord que ces choses-là n'étaient pas dans le discours de Jonas? Force nous est d'admettre que ce n'était pas dedans. Donc, comment susciter un changement de mentalité? Les personnes qui n'ont aucune conscience de leur état devant Dieu, il est bon de rappeler la loi. Aujourd'hui, on dirait que le chrétien est timide de parler de péché, comme si le péché n'existerait plus. Et je disais aux jeunes, vendredi passé, qui me posaient des questions, à un moment donné, j'ai dit, apprenez à laisser l'esprit vous guider et à avoir de la répartie. Hein, je me rappelle d'un homme qui savait que moi, je suis pasteur et qu'il a utilisé le nom de Dieu en vain pour m'exprimer quelque chose. Là, il m'a regardé. Ah, j'ai dit, je m'excuse. Je n'ai pas dit, je t'excuse. J'ai dit, ça ne me dérange pas. C'est pas mon péché, c'est le tien. Est-ce que vous comprenez? Je sais que ça l'a frappé quand j'ai dit ça. Parce que la conscience du péché, le monde ne l'a plus aujourd'hui. Et quand il me dit, il a dit la phrase, « Me regarde. » Ah, je m'excuse. Je dis, moi, ça ne me dérange pas. Hein. C'est pas mon péché, c'est le tien, mon ami. Pourquoi? Toute occasion est bonne pour que les personnes se rendent compte de leur état. Le Seigneur va souvent établir comme première étape à la repentance. Une parole, quelquefois, qui va faire mal. Et c'est ce qu'on vient de voir dans la lecture qu'on vient de faire de Jonas. Peu importe le message a eu son effet. Je suis certain que Jonas a été bien surpris de la réaction des Ninivites. On lit des versets, on n'aura pas le temps de tout prendre, mais on va lire les versets et je le reprendrai la prochaine fois, je le relirai s'il faut. Mais à partir du verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Le messager n'était pas bon, il ne donnait pas un message convaincant. Là. Ils ne parlaient pas de la grâce de Dieu, ils ne parlaient pas de la miséricorde de Dieu. Et pourtant, ils l'ont reçu. Les Ninivites crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le geste qui est évoqué ici, du jeûne, souvent je pose la question aux gens, est-ce que, pourquoi on jeûne? Ça sert à quoi le jeûne? Et vous seriez surpris des réponses que j'ai. Des gens m'ont déjà dit, ben, quand tu veux quelque chose, ardemment que tu veux quelque chose, tu veux que le Seigneur te donne telle chose, tu prends un temps de jeûne. Ah, je dis, OK, le jeûne, c'est qu'on prend le bras de Dieu, puis on y tord dans le dos, puis on dit, tu vas-tu me le donner? C'est ça que je t'ai demandé, c'est pas, tu vas-tu me le donner? Mais c'est l'image, quelquefois, que les gens ont du jeûne. Et pourtant, le jeûne n'est pas cela. Le jeûne n'est pas cela. Le geste qu'on nous montre ici, c'est un geste d'humiliation volontaire. C'est-à-dire quoi? Les Ninivites croient la parole que Jonas a donnée. Ils croient que son Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Et ces gens-là vont prendre une position d'humiliation. Et ici, je sais que dans nos sociétés modernes, le terme « humilier », c'est rabaisser quelqu'un. Ce n'est pas ce que le texte nous dit, là. La posture d'humiliation n'est pas « va te mettre à genoux dans le coin », là. Comme faisaient, ben, pas les jeunes, vous n'avez pas connu ça, c'est nous autres qui avons connu ça. Non, on va dire quoi, je ne le dirai pas. Soyons clairs, cette posture-là d'humiliation, c'est pas une posture malsaine, bien aimé. Souvent, comme l'image qu'on en reflète. Le jeûne est une posture d'humiliation quand tu prives ton corps de nourriture. Et je vais dire ça vitement comme ça, parce que je veux qu'on aille notre petit temps à la prière. Qu'est-ce qui arrive quand tu ne manges pas? Ton corps faiblit. Et c'est pas tout le monde que le jeûne va atteindre de la même façon. Je dis souvent à des gens, dis-moi, pasteur, je suis pas capable de sauter un repas, sinon les jambes me cognent ensemble, je suis faible, je vais tomber par terre. Je dis, non, c'est pas le jeûne là, qui fait ça. Là. Ça, c'est pas le jeûne qui fait ça. Pas après avoir sauté juste un repas. Là. Ça, ce qui fait ça, c'est que tu es habitué de manger, tu es juste habitué de manger. Un jeûne, généralement, sans pousser trop loin, essayez d'en sauter deux au moins. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la faiblesse qui s'installe dans le corps serait supposée de produire quoi en nous? Quand notre corps est faible, et là je vais prendre un autre pan, qui de vous a déjà été malade? Levez la main tous ceux qui ont été malades. Donc, les autres qui ne lèvent pas la main, c'est soit qu'ils sont morts ou ben non, ils n'ont pas de mémoire. Parce qu'on a tous traversé. Moi, j'ai mon frère dans la chair, que vous ne connaissez pas parce qu'il va à l'église de Sainte-Adèle. Mon frère Denis, cet homme-là, incroyable. Là. Cet homme-là a une santé de fer, là, vraiment. Là. Essayez de voir que vous l'avez à peu près 2 ou 3 ans. Mon frère est plus vieux que moi. Là. Moi, j'ai 63, il a 65. Là. Il s'est retrouvé à l'hôpital pour la première fois de sa vie. Et il m'a appelé et il dit, André, j'ai été à l'hôpital parce que je ne savais pas ce que j'avais. J'ai téléphoné à 811 puis on dit, à votre âge, faites une crise cardiaque, blablabla. Puis il dit, quand je suis arrivé là, 2 heures après, j'étais correct. Puis ils m'ont dit, ben, vous avez fait une indigestion. Puis je dis, Denis, tu t'es pas aperçu que tu faisais une indigestion. Tu as été encombré à un hôpital. Tu t'es pas aperçu que tu faisais. Comment ça se fait que tu n'as pas aperçu que tu faisais une indigestion? Ben, c'est la première fois de ma vie que ça arrivait. Tu n'as jamais fait d'indigestion, toi? Il dit non. Imaginez-vous, moi, j'en fais 2-3 par semaine. Lui, il n'en a jamais fait une. Fait que, donc, il me dit, je savais pas ce que c'était. Fait que. Et j'ai des blagues que je fais avec mon frère, là. Quand je le rencontre, je dis « Comment ça va? »« Ah, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai fait une migraine. Migraine, Denis, être malade. » T'es malade, tu files pas, non, tu sais pas c'est quoi. Et je vais souvent faire des blagues avec lui là-dessus. Mon frère jouit d'une bonne santé. Gloire à Dieu, soyons clairs. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le jeûne, si on le pratique, va affaiblir ton corps. Et qu'est-ce que ça va faire d'affaiblir son corps? Si vous avez déjà été malade, ah oui, bien, celle-là, je vous le dis tel quel. Quand vous avez été malade et que vous avez prié, généralement, ce n'est pas une prière courante. Vous dites, « Ouais, Seigneur, j'ai mal un peu à la tête, soulage-moi. » Quand quelqu'un est vraiment malade, et croyez-moi, j'en ai accompagné des malades, j'ai accompagné même des gens jusqu'à la mort. Quand on est malade, les gens deviennent des intercesseurs. Non, non, je vous le dis clairement, les gens deviennent des intercesseurs. Là, ça prie. J'avais un ami chrétien qui était qui servait dans, il était en charge du service dans les avions pour Air Canada. Et soyons clairs, une journée, il y a un avion qui faisait. Il dit tout le monde a appris à prier extrêmement rapidement. Il dit ça priait là, dans l'avion là. Il dit à grandeur de l'avion, il n'y a plus personne qui lisait le journal, il n'y a plus personne qui regardait la télé, il n'y a plus personne qui faisait autre chose que prier. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Le jeûne amène à une certaine fragilité de ton corps et à réaliser ta finitude. La maladie produit la même chose, mais plus désagréable encore. Donc, le jeûne est associé à quoi, généralement? À la prière. Donc, sauter un repas de temps en temps, ça va vous garder jeune homme, jeune fille. Je vais dire ça. Mais, nous ne le faisons pas pour cela. Le jeûne, associé à la prière, est une humiliation volontaire, affaiblir notre corps, prendre le temps qu'on prend à manger et l'investir dans la prière. Vous n'obtiendrez pas plus si vous jeûnez. « Oh, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. » Dieu ne dira pas, « Ouais, parce qu'il jeûne. Hein. Faut que j'y donne quelque chose. » Soyons clairs, le jeûne amène à un état de conscience de notre fragilité, amène à un état de prière, et les Ninivites l'ont fait. Les Ninivites l'ont fait. Et je le reprendrai... les versets qu'on a pris là, et je vais aller dans plus de détails dans ma prochaine semaine. Le jeûne devrait être une pratique privée. Vous comprenez ce que je veux dire? Une pratique privée. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui va avoir la santé pour jeûner. On l'avoue, il y a des gens qui prennent des types de médicaments qui ne peuvent pas jeûner. Et notre Dieu n'est pas un bourreau, soyons clairs. Donc, s'abaisser volontairement, s'identifier volontairement au plus petit de la terre. Là, je vous explique ce qu'ils ont fait, les Ninivites. On n'aura pas le temps de le finir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Ninivites ont jeûné et ont pris le sac et la cendre. Qu'est-ce qu'était prendre le sac et la cendre? Je vous expliquerai le sac, la cendre, vous savez c'est quoi. C'était un sac en peau de poil très rugueux et on s'en faisait un habit, une ceinture. Chez certains, sur la peau vive, soyons clairs. Et ça, c'était le vêtement, généralement, des laissés pour compte. Vous comprenez? C'était généralement le vêtement du laissé pour compte. Les plus petits de la terre, les plus pauvres de la terre, étaient vêtus de cette façon-là. Donc, quand la parole de Dieu nous dit que les Ninivites, qui étaient dans une forteresse bien protégée, ont senti le poids, et on va le prendre dans ma prochaine intervention, et le roi va dire « Repentez-vous ». Et il va nommer des choses. Rappelez-vous, je vous ai dit qui étaient les Ninivites. Il va dire, repentez-vous. La repentance est accompagnée par des gestes. par une attitude, par un abaissement de soi volontaire. On ne parle pas que personne l'impose, mais volontaire. Donc, nos personnes, les Ninivites avaient une bonne attitude face à la proclamation qui était faite. Est-ce qu'on a une bonne attitude face à la parole de Dieu? On va se lever. On va se lever debout. On va se lever. Il y a un bien-aimé qui nous a fait parvenir une requête pour laquelle on va prier. On a parlé de quoi aujourd'hui? On a parlé de notre homme qui n'était pas disposé, Jonas, à aller. Dieu a repris Jonas. Jonas finit par aller, a donné un message qui, somme toute, je ne crois pas qu'il était très, très, très convaincant. Mais la parole de Dieu a fait son travail. Elle a convaincu les gens. Les gens se sont repentis. Ils ont eu un geste concret de repentance qu'on va voir dans ma prochaine intervention. Ce geste-là concret de la repentance a envoyé un signal. A envoyé un signal à Dieu. Cette humiliation-là volontaire que Dieu nous demande tous d'avoir. Je vais vous laisser partir à 8 heures, ne vous inquiétez pas. Il faut qu'on ait un esprit soumis. Et je sais que le terme soumission n'est pas un terme à la mode. Notre Dieu s'attend à ce qu'on ait une attitude digne du salut qui nous est offert. Vous comprenez? Digne du salut qui nous est offert. Et personne ne peut le faire pour toi. On peut proclamer un jeûne dans l'Église, mais personne ne peut jeûner pour toi. J'ai déjà dit à des gens, la marche chrétienne, c'est une marche solitaire en groupe. C'est-à-dire, on marche tous dans la même direction, mais on marche pour personne. Tu ne peux même pas marcher pour ton épouse ou pour ton époux. Tu peux faire que ta propre marche. Tu peux lui donner un bon exemple, mais tu ne peux pas le faire à sa place. Donc, on va prier. Le frère Yves Galuchon, qui était un compagnon de travail à moi, qui vient ici à l'église, il est malade ces temps-ci. Le frère souffre de diabète, il fait de l'apnée du sommeil, sa santé est un peu hypothéquée. Il demande de la prière. Moi, je vous demande de la prière. Vous savez que je m'occupe de mon frère, c'est de plus en plus lourd. Là, j'ai une travailleuse sociale qui va venir, une autre. Et il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et je vous demande de prier. On forme un peu. Et je vous demande de la prière. Parce que je ne dois pas délaisser mon activité pastorale. Dieu m'a parlé clairement là-dessus. Et il se doit qu'il y ait des choses qui soient faites. Tantôt, en rentre, il faut que j'aille le voir. Je ne peux pas rester trop longtemps seul. Donc, je vous demande la prière. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des requêtes? On va en faire un seul bunch, je vais dire ça comme ça. Si tu as une requête, tu n'as pas besoin de lève ta main. Si tu as besoin de prière, toi personnellement, ou tu demandes la prière pour quelqu'un d'autre, aie la bonne attitude. On va lever la voix avant de terminer. Et j'aimerais que tout le monde lève la voix. Si tu as levé ta main, minimum, tu as une requête, tu devrais prier. Pourquoi confesser de la bouche? Je vous donnerai des raisons qui sont très, très, très techniques. Le cerveau humain est en fait d'une certaine façon. Dieu a demandé qu'on confesse de la bouche pour avoir toute l'attention nécessaire à ce qu'on fait. Je ne vous dirai que cela. Et on va élever la voix pour le frère Yves. On va élever la voix pour le frère Réal Bernard. Alors, on va élever la voix pour vos requêtes. On va faire ça maintenant. Donc, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui connais les temps, les moments pour tout et de tout, Seigneur, mon frère Yves me demande de la prière. Ce bien-aimé, Seigneur, est affaibli dans son corps par la maladie, ô Dieu. Et il s'appuie sur toi, il demande au peuple, et il s'appuie sur toi pour obtenir miséricorde, Seigneur. Je te remets aussi le frère Réal Bernard. C'est mon frère dans la chair, mais c'est ton fils, Seigneur. Seigneur, regarde la condition de vie de cet homme, Seigneur, et interviens. De toute façon, Dieu, interviens, nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Seigneur, tous les bien-aimés qui sont ici, qui ont quelque requête que ce soit, quelque besoin que ce soit pour eux ou pour un proche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais, Seigneur, tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, nos soupirs. Rien n'échappe à toi, Seigneur. Seigneur, je te dis, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, miséricorde sur nous, Seigneur, sur ton peuple. Qu'on puisse obtenir grâce, qu'on puisse obtenir faveur devant toi, Seigneur. Non pas à cause de nous, mais à cause de toi, Seigneur. Comme les Ninivites ont reçu grâce quand ils se sont humiliés et que tu as différé ton jugement sur eux, eh bien, Seigneur, si eux ont eu accès à cette grâce, à bien plus forte raison, nous qui connaissons le don de la grâce en Jésus-Christ, nous qui connaissons les merveilles de la vie éternelle, Seigneur, annoncées dans les évangiles, Seigneur, donne à ton peuple, Seigneur, que ton peuple puisse recevoir de ta main, ô Dieu. Seigneur, maintenant, là arrive où nous allons nous quitter, où les bien-aimés vont retourner à la maison. Je te demande de nous raccompagner, de nous assister, de nous donner la force de faire ce que tu nous donnes à faire. Parce que lorsque nous avons terminé, comme dit ta parole, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais donc, Seigneur, tu nous laisses souffler, mais tu t'attends, Seigneur, à ce que ton peuple soit engagé. Comme Jonas a dû se rendre quand même à Ninive, comme ta parole, malgré sa pensée à lui, a eu quand même l'effet sur les Ninivites. Ainsi, Seigneur, que la parole que j'ai donnée ce soir, qui est donnée par un homme très imparfait, puisse trouver un sol convenable chez les bien-aimés, Seigneur. Te remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. Ils ne peuvent se trouver entre meilleures mains qu'entre les tiennes. Garde, protège, Seigneur. Exhorte et amène à maturité ton peuple. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. On reprend plus tard notre enseignement.